Lisandra Mbappé, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions et de nous recevoir ici donc au GFCA, ou plutôt devrais-je dire GFCA. Mm-hmm. Que signifient ces quatre lettres?
Ça signifie Giles Forman Center for Acting, succursale de Paris. Et Giles Forman, c'est le directeur de l'école. C'est lui qui a fondé l'école en Angleterre et en France et qui a ses différents studios à travers l'Europe et les États-Unis.
Donc c'est lui qui possède le prestige et la compétence ultime pour enseigner la dramatique finalement.
Oui, c'est le big boss.
Et pour quelle raison?
Parce que c'est un ancien élève du Drama Center, donc une école qui a été fondée en 62 par Christopher Fétis et Yann Malgré. Et cette école en fait a été fondée autour d'un travail qu'on appelle Movement Psychology, qui est une analyse de l'expression humaine à travers le travail de Laban et de Carl Gustav Jung. Donc on est sur un travail d'analyse de l'expression humaine, comment est-ce qu'on peut recréer un personnage en recréant son corps, principalement.
Alors on va revenir plus tard sur la composante internationale du GFCA. Donc vous êtes une école, concrètement les élèves que vous formez, ils deviennent logiquement des acteurs professionnels. Mm-hmm. En combien de temps et à travers quel type de formation?
Alors on a deux types d'acteurs qui viennent nous voir. On a les acteurs qui sont déjà professionnels et qui cherchent à faire des formations qui leur permettent de travailler sur des techniques spécifiques. Donc soit Movement Psychology, qui est enseigné que chez nous, soit des techniques de jeu réaliste pour la caméra et du travail en anglais, principalement, parce qu'on est vraiment implanté entre différents pays pour ça. Et ensuite, on a des jeunes élèves qui viennent pour se professionnaliser en tant qu'acteurs et qui, eux, ont un an et demi de formation en intensif, 30 heures par semaine, et qui, derrière ça, après, partent sur le marché du travail.
En termes de prix, on se situe à quel niveau? Est-ce que vous fournissez des aides financières?
Alors, on a deux bourses par an. Une bourse à moitié prix pour un des élèves et une bourse où c'est entièrement gratuit pour l'élève. Sachant qu'en général, c'est des personnes où on sait qu'ils ne pourraient pas faire la formation dans d'autres circonstances.
Donc, vous les accompagnez?
Voilà, parce qu'on veut absolument les avoir.
Vous enseignez des techniques américaines et anglo-saxonnes. Mm-hmm. C'est si différent de jouer à la manière des anglo-saxons?
Alors, en fait, on descend tous de Stanislavski. C'est-à-dire que ce que vous allez trouver au théâtre français, à l'instar de ce que vous allez trouver au théâtre dans les pays anglo-saxons, ça reste à la base des techniques russes. Mais ces techniques russes ont été développées par les Américains dans les années 60 pour s'adapter à un nouveau marché qui était le marché d'Hollywood. Donc tout à coup, contrairement aux Russes, on n'a plus 3 ans pour préparer une pièce, on se retrouve avec au maximum 3 mois de prépa. Donc ils ont réadapté ces outils-là à un travail face caméra et aux contraintes qu'il y a par rapport à ça. Et maintenant, vous avez une nouvelle génération qui l'a même réadapté pour la télévision. Donc on a encore moins de temps de préparation, donc on a des exercices qui nous donnent quelque chose de beaucoup plus instantané et dans tous les cas de réaliste.
Est-ce qu'on peut être un acteur reconnu en langue française et percé dans le monde anglo-saxon? Est-ce que c'est possible?
Bah oui, vous en avez quand même pas mal d'exemples. Vous avez Omar Sy, vous avez Marion Cotillard, vous avez... Non, il y en a pas mal quand même. C'est le moment où je ne me souviens plus de tous les noms. Non, mais vous avez quand même pas mal d'acteurs français qui vont travailler à l'international. Après, est-ce que ça va être des grands premiers rôles à la Keanu Reeves ou, je ne sais pas, Tom Cruise? C'est toujours un coup de chance, même pour ceux qui sont américains. Mais bien sûr, on peut gagner sa vie. Et plus on parle de langue dans tous les cas, plus vous allez avoir une chance d'être embauchable parce que vous allez vous ouvrir sur différents marchés. Donc on se retrouve de temps en temps avec des acteurs qui, généralement, viennent de Suisse. Ils vont avoir entre 4 et 5 langues. Et là, c'est beaucoup plus facile pour eux de travailler parce qu'ils s'ouvrent le marché allemand, le marché suisse, le marché espagnol, le marché italien, le marché anglais, le marché français. Donc ça leur donne plus d'occasions encore.
Est-ce qu'on peut parler de taux d'insertion, en tout cas de taux de réussite? Est-ce que tous les élèves qui viennent chez vous réussissent après en sortant?
Alors là, maintenant, on est en train de faire des statistiques, ce qui m'est très très étranger, je dois avouer. Mais grosso modo, si je me souviens bien, donc sur la première promo qui est sortie en 2015, fin 2015, on avait eu 49% de taux de signature en agence, ce qui est quand même un bon résultat. Et ensuite, je ne pourrais plus vous dire exactement le taux de ceux qui travaillent derrière, mais on a quand même des bons taux de réussite. D'autant plus qu'en fin de compte, une partie de leurs professeurs sont des professionnels de l'industrie. Tant et si bien qu'en fait, en étant ici, ça leur permet aussi de développer tout un réseau. Et je pense que c'est le plus important à ce niveau-là. Tout à l'heure, ouais, on était en bas avec une de mes élèves à regarder la bande originale, la bande-annonce de Love Addict qui va sortir avec Eva Dams. On était mort de rire parce qu'au final, directrice de casting, directrice de l'école, tel acteur, ce sont nos professeurs, tel acteur, ce sont les anciens élèves. On était en train de se dire, GFCA. Donc voilà, c'est du réseau. C'est du réseau en plus, une compréhension de ce que demande le marché professionnel.
J'ai été surpris par une notion enseignée et pratiquée chez vous, les stages de réalisme. Ça consiste en quoi concrètement ?
Alors, c'est encore, on repart sur ces techniques de jeu anglo-saxon, c'est-à-dire que ça réunit ce qu'on appelle method acting. Donc, c'est les techniques qui ont été théorisées par Lee Strasberg, Uta Hagen, Stella Adler, Stanford Meisner. Et grosso modo, ça part de la prémisse selon laquelle la plupart des comédiens que vous connaissez, que vous aimez, c'est parce que vous avez l'impression de les connaître. Donc Sean Penn, vous avez l'impression de le connaître à chaque fois qu'il arrive sur scène. Michael Fassbender, vous avez l'impression de le connaître. Et bien c'est ça en fait. C'est la capacité qu'a l'acteur à s'ouvrir tout en composant un personnage. Donc ce n'est pas lui, mais il donne de lui afin que le public derrière soit touché d'une façon quasi animale par cette personne-là. Parce qu'on la voit souffrir, on la voit être heureuse, on la voit passer par tout ce qu'on appelait le crucible de toute cette histoire, en fait. Et c'est ça qui leur permet de travailler, c'est ça qu'on appelle les techniques réalistes.
Et donc ça passe par des cours de mouvement, de psychologie ?
Alors, c'est des cours de mouvement, c'est des cours qu'on appelle plus du déblocage de l'instrument et de la compréhension de l'instrument. C'est-à-dire qu'on arrive tous avec un corps, et ce corps-là est porteur de notre vécu. Tout le travail de l'acteur dans les premiers temps, ça va être de ramener le corps au neutre pour avoir en fait un canevas vierge sur lequel on va pouvoir composer après. Pour que le corps arrive au neutre, il va falloir enlever certaines tensions. Donc ça, c'est la base, c'est de réussir en fait à comprendre son instrument et à se comprendre soi-même, c'est-à-dire quel est mon vécu et pourquoi est-ce que je m'exprime de cette manière-là. Je m'exprime de cette manière-là, moi, parce que je suis française, parce que je suis fille de musicien, parce que je suis... etc., etc., etc. Ben, c'est la même chose pour un personnage. Et donc, une fois qu'on sait d'où on part, on peut commencer à composer quelqu'un d'autre, parce qu'on voit qu'est-ce qu'il faut changer exactement.
J'espère qu'il n'y a pas de tension dans cette interview, en tout cas.
Non, ça va.
Vous êtes installé donc à Paris. Pourquoi finalement les élèves n'y allaient pas à Londres directement ? Quelle est votre plus-value ici à Paris ?
Bah, la première chose pour laquelle on a fait ça, c'est parce qu'à la base, j'étais enseignante dans d'autres écoles et on avait le studio à Londres. La problématique qu'on avait, c'est que d'envoyer des gens à Londres, ça sous-entend que l'acteur en question va avoir une capacité financière qui n'est pas la même que tous les acteurs qu'on a envie de former non plus. Et le Drama Center, donc qui est l'école où a été formé Jice, à la base s'est formé pour ça. C'est-à-dire qu'ils essayaient au maximum de générer des comédiens qui ne font pas partie de l'upper middle class. Ce qui est, en fin de compte, je ne sais pas, en France, ça ferait une classe moyenne riche, en fait. Pas là, c'est d'essayer de trouver des gens qui ont des histoires à raconter. Et pour avoir une histoire à raconter, il faut avoir vécu sur 20 ans. C'est pas forcément quelque chose. On va avoir des enfants de grande famille qui peuvent faire ça, mais c'est vrai que c'est très dommage de se fermer de tout un panel d'acteurs potentiels sous prétexte qu'ils n'ont pas l'argent. D'où les bourses et d'où le fait qu'on ait essayé de s'implanter.
Et donc l'avenir pour vos élèves, c'est quoi ? C'est la signature de contrat avec des agents ? Comment ça se passe concrètement à leur sortie ?
Alors, sur le dernier trimestre, ils passent ce qu'on appelle un showcase, qui est une représentation devant seulement les professionnels de l'industrie. C'est-à-dire directeur de casting et agent, principalement. À la fin de ça, certains d'entre eux sont contactés, au contact des agents, pour pouvoir travailler. Après, avec les directeurs de casting, c'est plus compliqué parce que c'est vrai qu'ils vont voir une personne et ensuite, selon le film sur lequel ils vont être, ils vont ou pas penser à cette personne. Mais vraiment, le système du showcase, en fait, nous permet d'amener l'industrie en fin de formation à l'intérieur de l'école et de leur permettre de communiquer pour que aussi nos élèves ne se retrouvent pas avec un mur de Chine entre le milieu de la formation et le milieu professionnel. Parce que tout à coup, on se retrouve à former des acteurs qui ne sont pas prêts à travailler. Et ça, c'est ce qu'on essaye au maximum de pallier dans cette école, c'est d'avoir des comédiens qui, une fois qu'ils sont sortis, peuvent travailler.
Pour les futurs élèves qui souhaiteraient vous rejoindre, comment ils candidatent ? Est-ce qu'il y a des auditions à passer, certaines règles à respecter ?
Audition sur monologue, un texte classique avant 1920 et un texte contemporain après 1920. Et principalement, en fait, c'est on cherche à avoir des gens qui nous apportent une histoire. J'en reviens toujours à ça, mais c'est vrai. Et donc ils apportent un texte qui leur parle particulièrement. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un panel de professeurs, dont moi et Giles. Et à partir de là, on commence à les diriger pour voir jusqu'à quel point est-ce qu'ils peuvent travailler. Et ensuite, on les interviewe pour voir à peu près ce qui se passe derrière.
Vous n'êtes pas la seule école sur le marché à Paris, que ce soit en cinéma ou en théâtre. Vous avez des concurrents, les conservatoires, le cours Florent. Comment vous jugez leur formation ? Est-ce que vous avez des contacts avec eux ? Est-ce que vous vous considérez comme leader ?
Est-ce que je me considère comme leader à l'intérieur de la formation pour acteur à Paris ? Non. j'aimerais bien, ce serait cool. Mais non. En plus, Florent a toute une histoire derrière. Ils ont des promotions, et puis ils ont des muscles quand même. Ce que vous allez trouver en France, c'est vous allez avoir, je pense, de ce que j'ai compris du marché français, il faut savoir aussi que je ne me suis pas formée en France, mais de ce que j'ai compris du marché français, vous allez avoir deux types de formations, le studio privé et le conservatoire. Nous, ce qu'on a essayé de faire au maximum, c'est d'être un conservatoire privé. Tant et si bien qu'on propose autant de cours à un certain niveau de conservatoire, une intensité qui est similaire à ça, mais c'est du privé.
Deux dernières questions pour terminer. Vous vous situez à Barbès, qui est un quartier un peu décrié, en pleine mutation certes, mais un peu décrié. Mm-hmm. Vous avez un certain prestige, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Pourquoi vous êtes installé, vous êtes installé par exemple ici, et pas dans des quartiers un peu plus touristiques peut-être, mais moins décriés?
On est tombé amoureux d'un propriétaire. On a le meilleur propriétaire de la terre entière. Et que ce soit dit et que ce soit célébré. Parce que c'est quand même un monsieur qui habite loin en banlieue et qui repasse trois fois par semaine dans notre studio la nuit pour réparer. C'est quelqu'un qui a fait tous les travaux ici quand on est arrivé pour nous prendre. Et il possède en fait tout le bâtiment dans sa famille depuis 120 ans. Donc un peu, ce local, c'est un peu sa danseuse. Et à un certain niveau, il nous soutient comme véritablement, enfin, toute entreprise voudrait être soutenue. Et il fait ça avec toutes les entreprises qu'il y a à l'intérieur de son bâtiment et tous les locataires. Et on se retrouve en fait dans un bâtiment avec des violonistes, des designers, des make-up artistes, etc., etc. Tout un tas de personnes qui, soyons honnêtes, ont mal à trouver des appartements à Paris parce qu'on a le meilleur propriétaire de la terre entière. Et ça, je le revendique 100%. C'est la raison pour laquelle on est mal à Paris.
Et donc ce quartier, quand vous parcourez, qu'est-ce que vous ressentez?
C'est devenu la maison en fait. On est arrivé le premier soir, on a fait la soirée d'inauguration, je crois qu'on avait 200 personnes ici. Et donc la rue était noire de monde et c'était marrant parce que ça a peu été différent de ce dont ils ont l'habitude dans le quartier parce qu'on se retrouvait avec tout le Gotha parisien, avec du champagne, etc. dans la rue et le voisin qui rentrait en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et on a tout de suite été adoptés. Mais vraiment, je sais que la plupart de mes comédiennes ne vont pas avoir le moindre problème dans cette rue. On a le café à côté qui est Maison Mercadère aussi. Enfin, c'est devenu le QG, où on déjeune et on dit tous les soirs. Enfin, on se retrouve vraiment à avoir créé un petit cocon qui ne serait pas forcément possible dans le 6e arrondissement, je pense.
Un dernier aspect à évoquer avec vous, c'est un avis personnel, la domination anglo-saxonne, surtout américaine d'ailleurs. On la retrouve partout, notamment en musique, dans notre langage aussi quotidien, uh-huh. et dans tant d'autres domaines. On la comprend aussi pour des raisons historiques, bien sûr. Mais pourquoi finalement vous céder à cette domination? Vous pourriez défendre une exception culturelle française qu'on retrouve surtout justement au théâtre et dans le cinéma, et vous cédez à cette tentation?
Alors, ce que j'essaye de faire au maximum, c'est non pas de céder à la tentation de l'anglicisme, c'est de générer une forme de pan-européanisme. Et pour ça, j'adorerais que le français soit la langue principale. Malheureusement, ce n'est pas le cas en ce moment. L'anglais est une langue très technique. Elle permet énormément à l'intérieur de notre métier parce qu'on essaye de produire des mots sur des énergies, sur des productions d'énergie. Et la beauté de l'anglais, c'est qu'il y a un côté Lego. Donc, on peut créer des notions qui n'existeraient pas forcément en français. Donc, je pense que ça, c'est l'aspect fondamentalement intellectuel de la démarche. Et puis derrière, c'est la langue qui me permet de discuter avec tous les anciens mamoureux, qu'ils soient autrichiens, qu'ils soient polonais, qu'ils soient suédois. Et on s'est tous construits autour de cette langue. Après, le Drama Center à l'origine, et nous aussi, on se retrouve dans une recherche aussi d'enseigner tout ce qui est européen, et non pas forcément anglo-saxon. Les classiques américains, on les a dans le premier trimestre, et ensuite c'est passé. Et ensuite, on repart vraiment sur Corneille, Molière, Kleist, Schiller, Delorca, etc., 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 etc. Et comme vous enseignez en français, vous m'avez dit quand même que la plupart des jeunes de 20 ans ne comprennent pas ou n'ont jamais lu Corneille. Du coup, je pense que ce travail de générer l'exception française, etc., ça va commencer plus par ça qu'en leur donnant une langue derrière, de leur faire comprendre le patrimoine. Et de leur faire comprendre un patrimoine qui est un patrimoine européen, parce qu'on est totalement dépendant de ce qui s'est passé avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec les Luxembourgeois, avec l'Italie, avec l'Espagne. C'est ça notre identité, je pense. En tous les cas, c'est ce qu'on essaye de défendre ici.
Un dernier mot sur le spectacle, la représentation de fin février. En petit teasing, qu'est-ce qu'on pourra retrouver avec vos élèves? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter?
Alors ça, c'est une pièce qui s'appelle la Trilogie de Belgrade, qui est sur l'exil. Et ces jeunes d'une vingtaine d'années qui ont dû quitter... donc qui ont quitté Belgrade, et qui se sont retrouvés un peu à travers le monde. Donc vous avez les États-Unis, vous avez Sarajevo, vous avez tout ça. Et en fait, comment est-ce qu'ils arrivent à se créer une identité tout en essayant de garder en eux leur maison. Et je trouve que c'est intéressant, surtout avec le questionnement qu'on a par rapport aux réfugiés. Et qu'est-ce que c'est que l'immigration exactement? Et qu'est-ce que c'est que devoir quitter un pays simplement parce qu'il est en guerre et non pas parce qu'on a envie de, je sais pas moi, du rêve américain? Et je pense que ça, c'est intéressant, surtout pour les jeunes en ce moment, de voir ça, de comprendre ça.